Nous sommes normalement avec Christophe Géréti. Christophe Géréti, député La République En Marche de la première circonscription de la Corrèze. Christophe Géréti, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Bonjour.
Bonjour, j'ai beaucoup de questions à vous poser et principalement sur la mise en place du chômage partiel, un chômage partiel pris en charge par l'État suite à l'annonce du 12 mars d'Emmanuel Macron dans son allocution. Peut-être avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce qu'on peut faire un point rapide sur la situation en Corrèze aujourd'hui ?
Oui, la situation en Corrèze, elle est un peu différente des autres territoires sur le plan sanitaire, puisqu'on est encore dans une vague limitée. Hein, on a plutôt préparé le sujet sanitaire avec les hôpitaux, l'ARS, la préfecture et le monde des soignants qui est prêt à recevoir et à faire face, enfin nous l'espérons. Ça c'est le premier point. Sur la partie économique, ça s'est organisé un petit peu comme dans les autres territoires, avec d'abord une petite liberté qui a été donnée aux entreprises et aux activités, et puis la mise en place de plans de continuité pour certaines activités, pour d'autres des arrêts complets de leur activité en attendant le passage de la crise sanitaire et donc de l'évolution du virus.
Alors justement, c'est le point principal que je voulais aborder et pas mal de questions à vous poser. Dans son allocution du jeudi 12 mars, Emmanuel Macron a affirmé que, ouvrez les guillemets, « tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Je veux, et là c'est Emmanuel Macron qui parle, que nous puissions préserver les emplois et les compétences, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés puissent rester dans l'entreprise même s'ils sont obligés de rester à la maison et que nous les payons. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour donner cette garantie sur le plan économique. Ces propos d'Emmanuel Macron ont par la suite été confirmés par le ministre du Travail. Il se trouve que j'ai des retours d'entreprises, d'associations qui m'expliquent leurs difficultés à mettre en place ce chômage partiel. On constate ce que je qualifierais de hiatus entre les propos d'Emmanuel Macron et un excès de zèle peut-être de la directe. Alors ces propos d'Emmanuel Macron, c'était un effet d'annonce ?
Non, les propos, c'est pas un effet d'annonce, puisque en fait, on voit très bien, il y a eu la loi d'urgence du 23 mars 2020, dans la continuité des propos d'Emmanuel Macron, qui a permis de mettre en place l'état d'urgence, et donc les nouvelles règles de ce que vous appelez le chômage partiel et qu'on appelle dans la loi l'activité partielle, qui depuis quelques années, le terme a été changé et est en train d'évoluer. Mais dans les mœurs, effectivement, on parle de chômage partiel. Et il y a eu un décret et une ordonnance la semaine dernière qui précise justement cette activité partielle et donc qui fait en sorte que les doutes qu'il y a eu à un moment donné, c'est-à-dire la semaine suivant les annonces d'Emmanuel Macron, le temps de latence pour accepter les dossiers, pour faire comprendre que tout le monde était pris, les règles ont été précisées en fait dans le décret et dans l'ordonnance qui maintenant doit faciliter et ne doit plus poser de difficultés puisque ça a été dit et donc nous on a veillé en tant que parlementaires mais aussi la ministre du Travail a ouvert le maximum les possibilités pour les entreprises et notamment les salariés, d'avoir accès à cette activité partielle. Parce qu'il faut bien être conscient que l'activité partielle est uniquement liée aux salariés, ouverts à certains emplois, c'est-à-dire les VRP, les emplois à domicile, les assistantes maternelles, c'est quelque chose qui n'existait pas, mais c'est lié au salariat, et donc le chômage partiel, donc appelé activité partielle dans le texte, est ouvert et défini de façon beaucoup plus précise pour que le maximum d'entreprises puissent accéder à ce chômage et cette activité partielle.
Quand on parle de chômage ou d'activité partielle, c'est soit une cessation totale de l'activité pour le salarié ou alors la mise en place d'une activité partielle, c'est-à-dire d'un temps partiel, quelqu'un qui travaillerait 20 heures au lieu de 35.
Alors, l'activité partielle, elle est faite par rapport au nombre d'heures, et quand on demande une activité partielle, une entreprise demande pour ses salariés, ça porte bien son nom, c'est partiel. Donc, soit elle est totale, et l'entreprise est fermée, et donc, par exemple, ce qui est pris en compte, c'est tous ceux qui étaient concernés par l'arrêté du 15 mars, les commerces, la restauration, et donc là, l'activité partielle, elle est totale, et après, il peut y avoir activité partielle s'il y a une baisse en matière d'horaire de travail, par contre, il peut pas avoir de télétravail et d'activité partielle, ça c'est très clair. C'est marqué, si on a une activité qui a été réduite, effectivement, on a l'activité partielle, puisque les entreprises demandent pour leurs salariés, en fonction du nombre d'heures qu'ils ne travailleront plus sur l'entreprise, Et donc, ils peuvent avoir droit aussi à l'activité partielle dans le cas où le salarié n'est pas en télétravail et reste moins de temps à l'entreprise. Ça a été ouvert de façon très précise.
C'est-à-dire que si on télétravaille, on ne peut pas bénéficier de l'activité partielle prise en charge par l'État?
Non, le télétravail est un télétravail. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'y sont mis et donc le télétravail, vous êtes censé travailler chez vous, comme ça existe déjà dans le droit et comme c'est mis en place par certains. Donc ça l'accélère effectivement. Par contre, une entreprise de BTP, par exemple, qui travaille plus que la moitié du temps, elle peut demander son chômage partiel ou son activité partielle pour les employés qui ont réduit leur temps de travail et donc ils peuvent travailler à l'entreprise en même temps que disposer du chômage partiel. Mais effectivement, le télétravail, ça a été confirmé par Muriel Pénicaud. Cette semaine, c'est du travail, donc c'est pas considéré comme étant un travail partiel. Donc c'est très clairement à définir entre l'employeur et le salarié. Pour la mise en chômage partiel, c'est quelque chose de très précis, et donc le télétravail est un travail. Il n'est pas dit que dans le télétravail, on faisait du partiel. Donc si c'est le cas, à ce moment-là, il faut que les entreprises s'organisent autrement. C'est essentiellement des cadres qui sont en télétravail pour la plupart, ou des gens qui travaillent dans les banques ou des choses comme ça, et donc ça s'organise différemment. Le chômage partiel est essentiellement fait aussi pour les entreprises, notamment du BTP, de la restauration, les VRP, qui sont totalement liées à une activité extérieure à leur domicile et qui ne peuvent pas faire justement de télétravail.
Alors pour être vraiment précis, si on prend un exemple d'une salariée, disons qu'elle a un contrat à 20 heures, qu'elle peut télétravailler depuis chez elle, mais qu'elle ne peut pas comment dire, faire tout ce qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire que dans les faits, elle ne pourra pas travailler 20 heures, elle ne pourra travailler que 15 heures, parce qu'il y a 5 heures qu'elle ne peut pas faire en télétravail. Dans ce cas de figure, en fait, la mise en place du chômage partiel n'est pas possible. Il faut choisir entre une cessation totale de l'activité du salarié ou alors une solution qui fasse que cette salariée travaille les 20 heures de son contrat.
Oui, soit elle peut travailler. Alors les 20 heures, après, pour le contrôler, c'est l'entreprise qui le juge. Hein. C'est toujours pareil, quand on télétravaille, on va pas chez les gens pour vérifier. Donc on n'est plus au nombre d'heures, on est plutôt la possibilité de faire son travail donc, que l'entreprise lui donne. Si elle est en capacité de le faire, eh bien, elle est en télétravail et elle est payée par l'entreprise. Si, sur le même cadre d'emploi, cette personne-là ne peut pas le faire, à ce moment-là, l'entreprise décide de la mettre en chômage partiel et à ce moment-là, il est pris en compte. C'est l'exemple typique où il ne faut pas cumuler les deux parce qu'on ne peut pas à la fois faire travailler quelqu'un et le mettre en chômage partiel. Quand on télétravaille, c'est essentiellement des emplois où en plus on est cadre, où on est dans des fonctions, où on va dire que le chef d'entreprise ne contrôle pas au jour le jour ce qui est fait. À mon avis, c'est assez rare pour connaître un petit peu le système.
Et alors, pour continuer de préciser, le chômage partiel, par contre, un salarié qui peut se rendre sur son lieu de travail, mais qui ne travaillerait que 20 heures au lieu de 35, lui, peut être pris en charge avec la mise en place d'un chômage partiel.
Oui, dans ce titre exceptionnel, il peut, parce que c'est la réduction du travail qui est due au Covid. Donc c'est une ouverture qui a été faite dans le texte, c'est le chômage partiel élargi. En fait, c'est comme l'entreprise est en activité moindre, eh bien, elle prouve et elle demande un nombre d'heures en chômage partiel pour son employé et elle fait sa déclaration en ce temps-là. Et donc là, il n'y a pas de sujet, c'est pris en compte puisque c'est un cadre particulier en période d'épidémie. Et comme ça a été mis dans le texte, c'est l'état exceptionnel qui permet ce fonctionnement-là.
Alors j'aimerais aborder un autre point avec vous. Que doivent faire les salariés ou les entreprises qui ne connaissent pas de baisse d'activité, mais qui ne peuvent pas garantir la santé de leurs salariés sur leur lieu de travail?
Alors ça, ils peuvent aussi rentrer dans la logique du chômage partiel, puisqu'il y a trois possibilités, au-delà des cadres très précis. Il y a la première, c'est l'entreprise est fermée par l'arrêté, comme je vous ai dit, du 15 mars, et donc il n'y a plus de travail, c'est un arrêté administratif. Donc en ce cadre-là, l'activité partielle, est bien prise en compte. Le deuxième, c'est ce que je viens de vous évoquer, c'est une baisse de l'activité due au Covid. Et le troisième élément, c'est l'impossibilité pour l'entreprise de protéger ses salariés. Et donc, dans ce cadre-là aussi, la loi étant dans un cadre exceptionnel, a permis l'ouverture du chômage partiel. Et c'est pour ça que depuis quelque temps, les remontées que vous avez eues potentiellement la semaine dernière sont en train d'être prises en compte par les directs et les services d'État décentralisés pour montrer, en fait, qu'on prend en compte tous les éléments, à la fois sanitaires et à la fois économiques, sur ce chômage partiel. Ce qui en fait un point très important et ce qui a été dit par le président, c'est qu'on essaiera de tenir pour tout le monde et d'aider tout le monde pour que personne reste sur le bord de la route en matière économique.
Il commence à y avoir ce que je qualifierais de friction entre certains employeurs et certains salariés. Comment doivent réagir les salariés si leur entreprise considère qu'il n'y a pas de baisse d'activité, qu'elle peut continuer son activité normalement, mais que les salariés, eux, considèrent que leur santé, enfin, qu'il y a des risques pour leur santé? À ce moment-là, les salariés peuvent faire valoir un droit de retrait, mais à ce moment-là, c'est à la charge de l'entreprise et ce sera ensuite un arbitrage de l'inspection du travail.
Oui, exactement. Là, on est dans un cadre assez particulier où effectivement il peut y avoir un conflit dans l'entreprise, ce qu'on ne souhaite pas. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert aussi la possibilité aux chefs d'entreprise de demander à la CCI, à la Chambre des métiers, à toutes ces structures-là de participer à la médiation s'il y en a besoin, ainsi que les services de l'État. L'objectif est d'éviter ces conflits-là. Bien évidemment, on va en trouver probablement quelques-uns, et donc après il faudra arbitrer pour qu'il n'y ait pas de difficultés ni pour l'entreprise ni pour le salarié. Mais pour l'instant, on n'a pas énormément de remontées sur ce sujet-là. L'inquiétude était plutôt de rentrer dans l'activité partielle en cas de non-protection et en cas de baisse d'activité uniquement liée au Covid et non par rapport aux décisions administratives. Donc on commence à rentrer au fur et à mesure dans le concret et pour l'instant, on voit que depuis quelques jours et la sortie des ordonnances et du décret, les choses commencent à rentrer dans l'ordre et à mieux s'expliquer sur cette partie-là.
Pour rester dans du concret, justement, je rappelle que les entreprises ont des obligations pour garantir la sécurité de leurs salariés. Ce qu'on oublie, c'est que les salariés eux-mêmes doivent garantir la sécurité de leurs collègues. Comment ça se passe à ce moment-là dans une entreprise si un salarié considère qu'il est mis en danger par le travail d'un de ses collègues? Comment on arbitre ces conflits?
Cet arbitre, déjà, il se fait au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a une discussion avec le chef d'entreprise qui a, normalement, et qui ne sont pas toutes écrites, il hein, faut être honnête, des règles de protection. Par exemple, le BTP est en train de finaliser ses règles de protection et ses règles d'assiduité, ses règles d'éviter les conflits justement comme ça. Donc ça devrait arriver, c'est travailler avec les services de l'État. Dans ce cas-là, bien évidemment, le chef d'entreprise met en œuvre ces éléments-là et s'il voit qu'il y a des difficultés, bah, il tranche, soit pour diviser l'équipe, c'est-à-dire que l'équipe soit plus petite. L'objectif est aussi d'avoir des équipes probablement plus petites pour qu'elles ne soient moins en contact les unes des autres. Et puis le maximum de disposition en matière d'équipement, dont on sait aussi que les équipements, ben, certaines entreprises en ont, d'autres n'en ont pas, et donc ça se fera au fur et à mesure. Effectivement, c'est un élément où le chef d'entreprise doit faire très attention, en lien, s'il est possible, ou si il est nécessaire plutôt, avec les services d'État, bien évidemment, qui peuvent intervenir, non pas pour donner des ordres, mais plutôt pour conseiller.
Certaines associations m'ont fait remonter leur crainte que les compensations versées par l'État au titre du chômage partiel soient ensuite reprises plus tard avec des baisses de subventions. Ça, vous avez entendu parler d'un dispositif de cet ordre?
Non, absolument pas. Ça, c'est pas à l'ordre du jour du tout, notamment pour les associations. Il a été bien acté qu'on était sur un chômage partiel, que les associations pouvaient prétendre comme les autres activités sans aucun souci et qu'il n'y a aucun élément qui lie à la fois les subventions et qui lie ce budget exceptionnel qui est alloué au ministère du Travail et donc aux entreprises et aux salariés. Donc, il faut pas différencier les deux. Il faut différencier les deux parce que le premier, c'est qu'on considère que c'est un état exceptionnel dont il faut faire attention et bien évidemment que les associations puissent survivre et vivre après. Et le deuxième élément, c'est qu'on est sur un fonctionnement différent puisqu'on n'est pas sur un budget de fonctionnement classique et donc on est sur un budget de fonctionnement uniquement exceptionnel en lien avec une activité et en lien avec une épidémie. Donc il n'y a pas de risque sur ces éléments-là. Nous avons voté des rallonges budgétaires et nous n'avons pas voté des suppressions de budget et c'est pas du tout à l'ordre du jour et ça, de toute façon, on en fera le garant parce qu'on n'est pas là pour enlever un élément ou un élément financier à une structure et à la rajouter à l'autre. Donc c'est pas à l'ordre du jour, absolument pas, dans les instances de la commission des finances et encore moins au ministère du Travail.
Je voudrais revenir également sur la prime de 1 000 euros, une prime annoncée par Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Une prime qui pourrait passer à 2 000 euros, une prime défiscalisée versée aux salariés qui continuent de se rendre sur leur lieu de travail. Alors c'est une prime défiscalisée, mais c'est quand même aux entreprises de verser cette prime. Comment vont faire les entreprises qui souhaiteraient verser cette prime, mais qui ne le peuvent pas, manque de trésorerie?
Oui, ben, on a un sujet que vous venez d'ouvrir, effectivement. La prime de 1 000 euros a été ouverte essentiellement pour les gens qui sont en activité, notamment les services de distribution alimentaire, puisqu'on sait que ces structures-là peuvent financer ces primes, ou aussi pour les services privés dans lesquels on a de la production, parce qu'on sait qu'à partir du moment où ils produisent, c'est qu'ils vendent, et donc eux, ils pourront le faire. Effectivement, on a eu plusieurs millions de salariés qui en ont bénéficié l'an dernier. Cette année, il y en a déjà qui ont bénéficié. Il y a effectivement cet élément, c'est-à-dire pour les plus petites entreprises, on a évoqué le sujet. Pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur donner de l'argent directement pour faire cette prime, mais on réfléchit peut-être à plus tard, dans la deuxième partie, à avoir un modèle économique, puisque l'ouverture de l'Europe qui a fait que les aides économiques directes aux entreprises allaient être beaucoup plus simplifiées et beaucoup plus faciles. Donc on travaille aussi avec l'Europe qui régit cette partie économique et on voit qu'aujourd'hui, on va peut-être pouvoir avancer d'autres sujets. Alors peut-être pas la prime en direct, puisque ça c'est le chef d'entreprise qui le choisit, mais aider ces entreprises-là à trouver des solutions pour améliorer soit les salaires, soit avoir des aides directes pour mettre en place des meilleures conditions de travail. Oui, effectivement, on peut dire que c'est un sujet complexe, puisque les entreprises qui peuvent le financer avec de la trésorerie, elles le feront, et ça n'en doute pas, et on l'a vu l'an dernier. Et les entreprises qui n'ont pas cette trésorerie-là auront plus de mal. Par contre, pendant cette période-là, on va aussi apprécier cette partie trésorerie des entreprises, ça va nous permettre de voir les entreprises qui ont le plus de difficultés et peut-être de réfléchir à une mise en œuvre sur ces petites entreprises d'une aide économique particulière dans l'avenir, c'est-à-dire après la fin du Covid, pour pouvoir relancer l'économie, ce qui permettra peut-être aux chefs d'entreprise d'ouvrir un petit peu les possibilités pour leurs salariés, dont on sait que c'est dans ces entreprises-là où les salariés sont peut-être les plus assidus et les plus compréhensifs vis-à-vis du chef d'entreprise.
Alors on le constate, hein, de nombreuses entreprises ont une baisse d'activité, certaines non, mais il y a aussi des entreprises, et ça c'est plus rare, qui voient une augmentation de leur activité. Je pense par exemple aux entreprises du transport routier, aux supermarchés, aux personnels soignants. Alors les personnels soignants, les heures supplémentaires vont être pris en charge par l'État, ça a été annoncé, mais qu'en sera-t-il des salariés qui vont ou qui sont déjà en train d'exploser leur temps de travail, mais qui travaillent dans des entreprises qui ne pourront pas leur payer ces heures supplémentaires?
Globalement, les heures supplémentaires seront payées, quoi qu'il arrive, par les entreprises, puisque là, on n'a pas modifié la loi, hein, il faut être honnête là-dessus. Les heures travaillées seront des heures dues et des heures payées. Bien évidemment, avec ce qu'on a mis en place, on a un suivi au niveau des instances, que ce soit la Banque de France, donc pour la trésorerie des entreprises, que ce soit la Direct ou que ce soit la DGFiP, c'est-à-dire les services déconcentrés de l'État qui suivent toutes les entreprises au jour le jour. On a des remontées, nous, les parlementaires, très régulières. Et donc, s'il y a des difficultés pour ces heures supplémentaires, on sera informé. Mais il est peu probable que ces heures supplémentaires ne soient pas payées parce que de toute façon la loi les oblige à les payer et nous ferons en sorte qu'elles soient payées. Le salarié doit être payé de ce qu'il a travaillé. Voilà. Bien évidemment, il y a un lissage probablement pour les entreprises qui se feront parce qu'on sait que sortir au lieu de 35 heures, s'ils travaillent 60 heures, sortir 60 heures, c'est beaucoup plus dur. Mais les salariés ne seront pas oubliés et seront payés en fonction du travail qu'ils auront fourni. Ça, c'est une évidence. Et puis là aussi, nous serons à même de suivre ces dossiers-là et de faire attention que tout le monde respecte la règle que nous n'avons pas changé sur ce point de vue-là. Bien évidemment, les heures supplémentaires seront payées.
Christophe Géréti, je rappelle que vous êtes député de la Corrèze, vous êtes aussi membre de la commission des finances. Vous avez des contacts privilégiés avec le gouvernement pour suivre l'évolution, j'allais dire heure par heure, de ces dossiers?
Oui, on a des contacts privilégiés avec les ministres concernés. On a bon, à la fois la commission des finances qui est très liée au ministère de l'économie, mais on a eu, par exemple, samedi avec Muriel Pénicaud, une quinzaine de députés, une visioconférence pour parler justement des difficultés et des remontées qu'on avait territoriales sur l'activité partielle pour clarifier le décret et l'ordonnance et l'application locale. On a eu aussi avec le ministère de l'Intérieur, et nous en avons une autre cet après-midi, puisqu'on se regroupe par 20 députés, avec le secrétaire d'État Laurent Nunez pour faire le point justement sur la partie sécurité, la partie confinement et tous ces éléments-là. Donc effectivement, dans un sens, nous travaillons différemment et ça a rapproché probablement les parlementaires de l'exécutif pour faire remonter les difficultés. Et on a eu le même sujet, par exemple, on n'en a pas parlé sur le fonds de solidarité justement pour les indépendants et pour les petits commerces qui peuvent être des micro-entreprises. entreprises, c'est en discutant avec les ministres et avec les cabinets que nous avons pu faire accepter que nous revoyons le taux de 70% du CA et passer à 50% parce qu'il faut être dans la réalité. Donc on voit que cette crise-là a permis de rapprocher pour les gens qui le souhaitent, les parlementaires qui font remonter, qui travaillent sur le terrain en lien avec la Commission, bien évidemment, mais aussi en lien avec l'exécutif. Et je crois que c'est une bonne chose. Ça rapproche le pragmatisme de la décision politique nationale. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. On essaiera de le maintenir et on va voir que ça va faire sûrement évoluer les prises de décision dans les semaines et les mois à venir.
Je voudrais conclure cet entretien en prenant un petit peu de hauteur avec deux questions moins concrètes, mais qui, à mon avis, méritent d'être posées. La première, c'est donc je reviens sur cette prime de 1 000 euros qui pourrait être doublée d'après Bruno Le Maire. Je trouve cette prime un petit peu ambiguë. Je trouve qu'elle pose un problème éthique, à savoir que la majorité des personnes qui pourraient toucher cette prime sont indispensables au bon fonctionnement du pays, et ce sont le plus souvent des personnes qui ont de faibles revenus. Alors cette prime, c'est une prime pour leur engagement ou un encouragement pour ces personnes essentielles à se rendre sur leur lieu de travail malgré le risque, et là ce serait une prime de risque.
Alors, effectivement, et on s'est posé la question, effectivement, sur la prime, parce qu'il y a un sujet éthique. L'objet est quand même de protéger la santé, donc sur ce point de vue-là, il faut rester humain. Il ne faut pas obliger par une prime aux gens à venir à travailler. Il faut rester très humain. Je pense que c'est le premier élément qu'il faut dire. Sur cette prime-là, effectivement, je pense que l'objectif du gouvernement était quand même de rendre un élément financier aux gens qui viennent travailler et qui font les efforts. Mais ça nous montre aussi que les petits salaires ont besoin d'être évalués, c'est certain, et que ces personnes qui sont certainement les petites mains, comme vous les avez dit, mais qui sont aussi les personnes essentielles pour le fonctionnement, on le voit en période de crise, et qui sont des personnes nécessaires pour le fonctionnement alimentaire, le fonctionnement du transport, le fonctionnement de la santé aussi, eh bien, ça nous permet de les revaloriser d'une certaine forme. Après, il faut bien oublier de mettre la santé en priorité et que la prime ne doit pas vous faire oublier la partie humaine. Par contre, il est nécessaire effectivement de récompenser les gens qui sont allés travailler et ça nous permettra de réfléchir probablement sur la partie salaire, comme je l'ai dit au début, parce qu'on est conscient, et depuis que nous sommes arrivés, que les bas salaires, au vu de l'activité d'aujourd'hui, méritent d'être réévalués. Et c'est un travail qu'on fait, mais qui est un travail assez lourd et dont on voit la difficulté, puisque les entreprises ne peuvent pas augmenter les salaires de façon conséquente et comme on le voudrait, et l'État non plus, donc il faut trouver des solutions. Mais je suis assez d'accord avec vous, cette prime peut avoir une ambiguïté en matière éthique. La priorité est quand même de respecter l'humain et que cette prime ne doit pas faire oublier l'humain. Par contre, je trouve que le gouvernement, et c'est un peu la décision finale qui a été prise, propose quelque chose qui peut répondre à des besoins des personnes qui vont travailler et ça leur permet aussi, par rapport à ceux qui n'y sont pas allés, d'avoir un pécule financier supplémentaire et c'est pas négligeable pour les petits salaires, il faut pas oublier.
Enfin, vous l'avez répété, protéger la santé, respecter les personnes. Je voudrais revenir pour conclure cet entretien sur ce que j'appelle les injonctions contradictoires auxquelles font face les salariés, les employeurs, mais aussi la population, tous les citoyens, à savoir que Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, conclut son point presse quotidien en rappelant, je le cite, pour sauver des vies, restez chez vous. Olivier Véran, ministre de la Santé, il y a 2 jours, ou 2 ou 3 jours, concluait un point presse en disant à peu près la même chose. Pour sauver des vies, restez chez vous. Et d'un autre côté, on trouve une autre injonction, en tout cas le gouvernement qui entretient un flou artistique relativement ambigu sur la nécessité ou non de se rendre sur son lieu de travail. On est tous employeurs, salariés, mais aussi simples citoyens renvoyés à notre propre responsabilité, et on a 2 autorités qui nous donnent des informations contradictoires, à savoir les autorités sanitaires qui nous disent pour sauver des vies, l'essentiel c'est de rester chez vous, et le gouvernement qui reste flou sur ce sujet. Quel est votre avis en tant que député, mais aussi en tant que citoyen, sur ces injonctions que je qualifierais de contradictoires venant des autorités?
Alors, ma position position, elle est assez claire, puisque je l'ai exprimée aux entreprises et je l'ai exprimée aussi au ministre du Travail, c'est que moi je considère que la santé est prioritaire et que je suis plus d'avis d'écouter le ministre Olivier Véran et le docteur, le professeur, pardon, Salomon, puisqu'on sait que la meilleure solution c'est le confinement et la non-prolifération ou la prolifération maîtrisée du virus, à la fois pour soulager les instances sanitaires et donc nos hôpitaux. On le voit que c'est une grosse difficulté, qu'il faut aussi comprendre que ces gens-là n'ont pas besoin d'avoir plus que ce qu'ils ont. Et le deuxième élément, c'est très clairement que ces injonctions effectivement de l'exécutif d'aller sur le lieu d'activité, il doit être, comme je l'ai dit, très fortement encadré par la logique sanitaire des responsabilités individuelles et collectives, et donc de ne pas prendre de risques. Et c'est ce que j'ai moi évoqué avec les entreprises et les fédérations de bâtiments ou de travaux publics ainsi que la CCI. Je considère qu'il vaut mieux aujourd'hui protéger les salariés et les employeurs de façon précise, ne pas prendre de risques, et que nous aurons tout le temps après la crise et la montée en pic, c'est-à-dire le mois d'avril de ce virus, pour pouvoir relancer l'économie et avoir des gens disponibles, à la fois efficaces, non malables, et avoir des ressources humaines prêtes à retravailler de façon dure et efficace, parce qu'on sait que la relance sera autant importante que la période de crise. Donc pour moi, il est nécessaire de tenir compte de tout ce que Olivier Véran, que nous connaissons bien en tant que parlementaire, et le professeur Salomon édictent en matière de règles et encore plus en matière de position. Donc ma position, elle est plutôt claire, même si je suis un fervent défenseur du monde économique, il est nécessaire aujourd'hui de faire passer cet élément-là, c'est-à-dire la mesure sanitaire et la mesure humaine en premier par rapport à l'économie que nous relancerons de toute façon à la fin de la crise.
Ça veut dire qu'à la fin de la crise, les différents services de l'État qui devront opérer des contrôles sur les entreprises ou associations qui auront par exemple mis en place du chômage partiel ou je pense à d'autres mesures qui pourraient venir, ces différents services se montreront plutôt compréhensifs et ne se transformeront pas en père fouettard.
Nous ferons en sorte qu'il soit compréhensif parce qu'on sait très bien qu'une décision d'arrêter une activité, elle n'est pas simple pour le chef d'entreprise. Elle peut mettre à mal une entreprise très longuement, c'est-à-dire sur plusieurs mois, voire une année ou deux. Et donc, il est nécessaire que les services qui aujourd'hui, et on va le dire moi pour ceux de la Corrèze que je connais bien, sont très efficaces et plutôt prennent du recul et donc refusent le moins de choses possibles. Et le contrôle a posteriori, effectivement, on fera en sorte qu'il soit juste. Mais on voit bien dans nos territoires, je n'ai pas beaucoup vu d'entreprises qui ont triché ou qui trichent depuis des années sur quel que soit, à part bien évidemment il y a toujours des exceptions, sur la partie chômage partiel ou activité. On est plutôt dans des régions où les gens travaillent, où les chefs d'entreprise et les salariés travaillent. Et donc je ne pense pas que les entreprises cherchent à tricher et elles ne le tricheront pas. Par contre, les services de l'État feront en sorte d'être non pas au plus souple, mais d'être au plus juste et d'être cohérent avec ce que le président de la République et puis bien évidemment ce qu'on a vu, c'est-à-dire les clarifications et l'ouverture au chômage partiel, aux activités partielles et au fonds qu'on a créé pour permettre à ces entreprises de relancer et de vivre la suite de leurs activités, parce qu'on sait que la reprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, est aussi importante que la période de crise et donc de stand-by, comme je pourrais le dire, de l'activité actuellement.
Christophe Géréti, je rappelle que vous êtes député La République En Marche de la première circonscription de la Corrèze. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à ces questions.
Merci à vous, bon courage et bonne journée.